Voilà, bonjour à tous. J'espère que ça fonctionne. On m'entend bien? Oui, ça va. Voilà, alors merci pour l'accueil, Amédi. Merci pour cette occasion d'être ensemble. Je vous transmets tout d'abord les salutations de l'Assemblée de Jodogne, comme il a été dit. Donc, je suis pasteur à l'Assemblée de Jodogne. Mais je viens ici aussi, comme vous le savez, dans le cadre de la jeunesse, dans le cadre de Provision Jeunesse, où une fois par mois, j'essaye de visiter chaque assemblée pour partager un petit peu ce qu'on fait, mais aussi pour essayer de nous encourager en fonction de ce que le Seigneur met sur notre cœur, sur mon cœur. Et on était très contents dernièrement, on a organisé une soirée 20 plus à Namur, d'avoir des personnes d'ici qui étaient là. Donc Anthony et Coralie étaient avec nous. Et c'était vraiment encourageant de voir, même malgré le petit nombre, on voyait que plusieurs personnes de nos assemblées étaient présentes. Et aussi chaque année, on organise une idée au mois de mai, donc le 1er mai, où là, une jeunesse plus large est invitée, où les groupes de jeunes, quand il y a un groupe de jeunes, peuvent venir. Et donc, c'est toute une journée autour d'animation qui veut nous encourager autour de l'unité, mais aussi en fonction du thème de la journée, où parfois le Seigneur conduit d'une certaine manière. Alors, aujourd'hui, mon épouse n'est pas avec moi parce que les petits sont malades. Donc, il y avait Sophia qui est la troisième qui avait une grippe et qui l'a refilée au quatrième. Donc, ils ne sont pas là aujourd'hui. Mais hier, elle était aussi toute la journée à la journée enfant. Plusieurs aussi qui étaient ici, soit les enfants, soit comme animateurs étaient là. Donc, la journée enfant, elle était en cuisine toute la journée, donc elle était bien fatiguée en rentrant au soir. Mais donc, voilà, là, elle a quand même les quatre à devoir gérer. Donc, ce que je vais à vous partager aujourd'hui concerne plutôt un autre projet que nous avons, et j'espère que vous le recevez, c'est le projet prière. On a essayé de redonner une nouvelle mouture cette année en l'appelant Impulse, avec l'idée vraiment de pouvoir nous impulser dans le domaine de la prière. Et pour pouvoir être encouragé au niveau de la prière, comment prendre un autre exemple que celui de Jésus, l'exemple de Jésus au niveau de la prière. Parfois, on peut avoir tendance à couper la prière en plusieurs manières de prier, à vouloir essayer de dire c'est bien de pouvoir commencer par un petit peu de prière, quelques minutes par jour, et essayer de trouver des sortes de procédures et de solutions. Mais au final, comment prier? Et quand on observe Jésus, on voit qu'il a une vie de prière qui est assez impressionnante. Et le premier endroit, et ça va rejoindre assez la présidence qu'on a eue tout à l'heure, on s'est interrogé sur, tiens, comment ça se fait que Jésus, le roi des rois, arrive sur un ânon? Comment ça se fait qu'il peut, en tant que roi des rois, arriver sur cet ânon? Et j'espère que ce message que j'aimerais vous partager va pouvoir nous éclairer un peu là-dessus. Tout d'abord, avant d'introduire le message, j'aimerais qu'on puisse se rappeler dans Luc au chapitre 3, dans les versets 21 à 22, le moment où Jésus va tout doucement arriver dans le ministère et va passer par le baptême chez Jean-Baptiste. Et puis nous irons dans le désert, où là il va passer carrément 40 jours dans le jeûne et la prière. Mais ce qui est intéressant dans ce moment de baptême que j'aimerais relever, c'est le moment où Jésus va prier pour la première fois en public. Je suppose que c'est la première fois en public parce qu'il a sûrement déjà prié avant, on se doute bien, mais c'est là où vraiment c'est mis en évidence. Et donc dans Luc chapitre 3, les versets 21 et 22, nous lisons « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Quelle prière, n'est-ce pas? Jésus prie et le ciel s'ouvre, le Père, l'Esprit descend, l'Esprit se met en mouvement dans une forme corporelle qui est la colombe, et puis des paroles distinctes, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Pour moi, la suite de l'histoire dépend de ce moment, dans le sens où, ici, Jésus est identifié par le Père comme son fils. C'est son identité. Et ça ne change pas. Ça ne change rien. Peu importe ce qui va se passer ensuite de l'histoire, rien ne changera. Et en cela, Jésus peut monter sur un ânon, peut avoir l'air d'un pauvre, peut nettoyer les pieds de ses disciples. Pourquoi peut-il faire tout ça dans le visible? Parce qu'il sait que dans l'invisible, il est fils de Dieu. Et rien n'y changera. Peu importe ce qu'il va faire. Il pourrait nettoyer les toilettes, ça ne changera rien. Il est conscient de ça. Et souvent, nous dépendons de ce que nous faisons. Nous dépendons de nos actions. Nous dépendons de notre service. Il y a des personnes, au moment où ils sont malades, qui ne savent plus rien faire, ils deviennent fous. Parce qu'ils n'arrivent plus à faire, comme s'ils n'existaient plus. Et on a toute une génération avant nous qui étaient des travailleurs, qui travaillaient. Maintenant, on règle au niveau du travail, on a rajouté les congés, etc. Mais il y a eu toute une période où le travail, c'était la vie, c'était tout. Maintenant, on commence à trouver des loisirs, on commence à essayer de voir comment on peut vivre, comment on peut retrouver une manière de vivre où le travail n'est pas forcément la priorité. Mais il y a toute une mentalité dans le faire, qui vient de la chair. Il faut faire pour être. Il faut faire pour exister. Et ici, on voit avec Jésus que c'est l'inverse. Et on va le voir à travers l'histoire et surtout à travers simplement ce moment de tentation dans le désert où cette identité de fils déclarée par le Père va être ce qui va faire cheminer la vie de Jésus et qui ne va le faire bouger ni à droite ni à gauche. Il va rester fixe parce qu'il sait au fond de lui. J'aimerais qu'on puisse, avant de continuer, remettre ce moment dans la prière et que vraiment le Seigneur nous éclaire par rapport à ça. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette occasion d'être ensemble. Et Seigneur, encore ce matin, que nous voulons, Seigneur, prendre ton Fils Jésus comme modèle. Nous avons parlé de victoire, nous avons parlé de son sacrifice, d'humilité aussi. Mais nous voulons ici, Seigneur, découvrir cette identité qui veut nous être aussi donnée à nous. Et pour cela, nous avons besoin que tu nous éclaires par ton esprit. Car il est question de choses invisibles. Ce n'est pas notre identité ici sur terre dont il est question, mais de notre identité dans les cieux. De comment toi tu nous vois en Christ. Et pour cela, nous avons besoin de tes yeux. Nous avons besoin, Seigneur, nous aussi, que le ciel s'ouvre au-dessus de nous. Que ton esprit souffle au milieu de nous et agisse puissamment afin que nous puissions entendre dans nos cœurs, dans nos esprits, dans tout notre être, cette parole qui vient de toi. Tu es mon fils. Tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Car là est ton amour de Père. Viens te révéler comme un Père ce matin, et que nous repartions d'ici conscients de notre position de fils, conscients de notre mission et de notre autorité en toi, et conscients de ton action en nous et autour de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Jésus vient donc d'être baptisé. Vient de vivre un moment très fort. C'est le début de son ministère. Enfin, ça va être bientôt le début de son ministère. C'est en train de se préparer. Il passe différentes étapes. Et la première étape est ce baptême. La deuxième étape, avant de partir dans cette mission, c'est la tentation dans le désert. Il va être transporté dans le désert. Et donc, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble au chapitre 4, les versets 1 à 14. Et où nous allons voir que justement, cette identité, j'aimerais vraiment que ce mot reste pendant tout le moment de la lecture aussi, va être un peu malmenée. Pardon, je ne suis pas habitué. Excusez-moi, c'était pour vous réveiller. Oula, faut que je fasse gaffe. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, il est dit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Et le verset 14, « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. » J'aimerais qu'on puisse s'arrêter ici sur les trois tentations et faire le lien avec ce qu'on a vu juste avant. Sur quoi le diable va tenter premièrement Jésus? J'aime bien l'interaction. Sur la nourriture. Mais que met-il en question? La foi, oui. Mais la foi en quoi? Sa position en tant que fils de Dieu. Et c'est super intéressant ça. Parce que juste avant, le Père lui-même, Dieu lui-même lui dit, tu es mon fils. Et là, le diable débarque et lui dit, si tu es le fils. Intéressant. Si tu es le fils, et là, il a pas, pour lui, en fait, c'est pas grand-chose. Transformer une pierre en pain, ça doit pas être énorme. Pour nous, c'est quand même là, ça devient plus compliqué, mais pour lui, je pense que c'était accessible, quoi. Surtout qu'il est le fils de Dieu. Et là, c'est intéressant parce que, que fait le diable ici? Il essaye de mettre le doute sur quelque chose qui est. Est-ce que le diable a déjà fait cette chose-là? Oui, c'est la première chose qu'il a faite. Avec Adam, qu'est-ce qu'il a fait avec Adam? Quand il l'a tenté, comment il a tenté Adam? La première fois, est-ce que vous vous souvenez comment il a tenté Adam? Quel était son argument? Genèse. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Donc là, il remet la parole de Dieu en doute. Mais comment il va le tenter en disant, si tu manges de ce fruit, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras comme Dieu. Est-ce qu'il était déjà comme Dieu? Et il a été créé à l'image de Dieu. Donc il est comme Dieu. Même chose. Adam a été créé comme Dieu. Il était à l'image de Dieu. Et Satan vient et dit, tu vas être comme Dieu. Il n'a pas dit, tu vas être Dieu. Tu vas être comme Dieu. Ce qu'il était déjà. Donc, il remet en doute quelque chose qui est. Pourquoi, en fait, il fait ça? Et là, on rentre dans la religion. Donc, faites bien attention. Ce qu'il essaye de faire, c'est que l'homme ou Jésus fasse quelque chose que Dieu n'a pas demandé ou que Dieu n'a pas dit pour obtenir ce que Dieu lui a déjà donné. Ça, c'est ce que fait le diable. Et c'est ce qu'il essaye de nous faire faire tout le temps. Un bête exemple, la grâce. Combien de fois il nous fait faire des choses où on pense qu'on doit faire pour obtenir quelque chose de Dieu, alors qu'on l'a déjà, par grâce. On voudrait être plus juste, on l'est déjà. On voudrait être plus saint, on l'est déjà. Et ça, c'est ce qu'il veut faire avec nous. Il remet en question notre identité, alors que Jésus a tout acquis à la croix qu'on vient de célébrer ici. Il a eu la victoire, il a tout eu, il nous donne tout. En Christ, vous avez tout. Et l'ennemi vient et dit, « Ouais, mais tu ferais peut-être bien ça, tu ferais peut-être bien ça, tu ferais peut-être bien ça. » Et on est tout le temps en train de se dire, « Qu'est-ce que je dois faire ?» Non, vous n'avez pas ça, vous? Qu'est-ce que je pourrais faire en plus? Je viens vers Dieu, je vais prier, par quoi je commence? Il faut d'abord que je fasse ça, je demande d'abord... Vous voyez, on veut toujours faire quelque chose. Mais on a déjà. Et plus j'avance dans cette conscience qu'il a tout accompli, plus c'est déjà, c'est... Maintenant, on peut parler, Seigneur. Il a tout accompli. Je peux venir. Vous voyez comme c'est léger? Il a tout accompli. Je suis fils, fille. Je suis saint. Et ça ne change pas. Alors, c'est dur pour nous. Hein. Mais c'est comme, je vais vous donner un exemple très pratique. Est-ce qu'il y a des gens qui sont mariés ici? Oui. Oui, est-ce qu'il y en a qui sont mariés? Oui, oui. Moi aussi. OK. À partir de quand vous êtes déclaré mari ou femme, on peut prendre les femmes, font le parallèle, mais je vais pas, vous comprenez. À partir de quand on est déclaré mari? Pardon? Quand on s'unit, quand on se dit oui, à la commune idéalement, ici, en tout cas. Donc, à partir du moment où je dis oui à l'autre, je deviens bari, deviens époux, épouse, et ça jusqu'à la fin de mes jours, logiquement. Est-ce que si je suis un mauvais mari, je bats ma femme, j'ai des paroles dures, je la trompe, je fais tout ce que je veux, je ne suis plus mari? Non, je reste mari. Donc mon statut ne change pas, même si je ne représente pas le mari idéal. Et dans la logique, quand je me marie, est-ce que je suis déjà le mari idéal? Non. Ça va de jour en jour, on espère, en découvrant l'autre, en se connaissant mieux, en s'accordant, en se découvrant, que petit à petit, je grandis dans cette position. Donc, je suis mari, mais je grandis dans l'idée d'être de mieux en mieux un bon mari pour mon épouse. On peut prendre le même exemple comme papa, un père. À partir de quand je deviens papa? Naissance du premier. Même chose pour les mamans, vous faites le parallèle. Même chose. Et là, de nouveau, je peux être le pire des pères. Ça ne change rien à ma position de père. Donc ma position, mon statut ne change pas. Et l'objectif, de nouveau, je deviens papa, je ne suis pas le papa idéal, mais j'apprends de papa au fur et à mesure, et je tente, dans le meilleur des cas, à être un papa meilleur chaque jour. Ça, c'est la réalité de ce statut. Et quand je vais à la commune, par exemple, pour des papiers, est-ce qu'on va me dire, vous êtes marié, attendez, est-ce que vous êtes un bon mari? Non. Non, on va vous demander, est-ce que vous êtes marié? Point. Pourquoi devrait-il en être différent dans notre position en Christ? Si je suis déclaré, j'ai donné ma vie à Jésus, il me dit maintenant, en moi, tu es saint. Alors je regarde ma vie, je me dis, mais non, je ne suis pas vraiment saint. Non, ta position est saint. Maintenant, tu es appelé à devenir ce saint qui est de plus en plus comme Christ. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit en général. L'ennemi, en général, il dit, tu n'es pas saint, on vient de le voir. Tu pourrais faire ça et ça et ça, et peut-être alors tu deviendrais saint. Religion. L'Esprit fait quoi? Je te rappelle, mon petit gars, que tu es saint. Donc tu dois agir en saint. Donc marche dans la lumière et les ténèbres disparaîtront. Marche dans ta position. Marche dans ce que tu es. Et ça, ça ne change pas. Et chaque fois que j'ai le doute par rapport à ça, c'est pas Dieu. C'est un autre qui essaie. Parce que pourquoi il sait ça? Parce que si je perds cette identité, j'oublie que j'ai une autorité, j'oublie tout ce que je suis, le monde, par rapport à Dieu, disparaît et je ne suis plus que moi. Si je doute de ma position, je perds tout ce qui va avec, parce que il en sera fait selon notre foi. Tout dépend de notre foi. Et à partir du moment où, au contraire, je suis conscient de ma position, je suis conscient de qui je suis, ça change complètement l'optique de ma vie. Peu importe les circonstances au final. Ça ne change pas qui je suis et ce qui se passe autour de moi. Mais pour ça, il faut que moi-même, j'ai vécu ce moment où Dieu est venu se révéler à moi et m'a dit « Tu es mon fils ». Parce qu'ici, la clé de tout, ce n'est pas une conviction. Il y a toute une pensée pour le moment positive qui existe où on essaie de se convaincre de réalité. Je suis bien, tout va bien, la vie est belle, il faut que je sois positif, il faut que ce... Ici, la Bible ne parle pas de pensée positive, elle dit, c'est Dieu lui-même qui vient te parler, qui vient te dire dans ton cœur, par son esprit, tu es mon fils. Il vient placer une conviction. Et je suis appelé à ce que cette conviction soit entretenue, gardée, que les doutes partent, que les mensonges ne puissent pas arriver, et rester dans cette conscience de qui je suis. Ça, c'est le premier point, c'est cette identité que je suis. Et les paroles que j'ai pu recevoir autour de moi, mon histoire, mon éducation, tout ce que j'ai reçu et qui a façonné l'identité que j'ai sur la terre, est la réalité que je vis ici. Peut-être certains se disent, mais moi, on m'a toujours dit que je servais à rien, donc moi, j'ai l'impression que je ne sers à rien, quoi. Mais ça, c'est ce qu'on a reçu ici, c'est les paroles. Et d'où l'importance de nos paroles aussi. C'est une grande importance parce que ça nous définit souvent, les paroles qu'on a pu recevoir. Mais ici, l'enjeu n'est de se rendre compte que Jésus vient nous apporter une autre identité, l'identité qui est en lui. Et plus je vais être à l'écoute de cette identité-là, plus je vais être libéré de l'autre identité qui me colle à la peau. Parce que la vérité me rend libre. Et plus je vais vers la vérité, plus je suis conscient de qui je suis en Christ et de ce qu'il m'a donné, Moi, je suis à l'écoute de tout ce qu'on m'a dit et de tout ce passé qui me colle et qui me tire et parfois qui m'empêche d'avancer et qui me bloque. Donc, c'est important de savoir qui je suis en Christ. Et ici, on le voit avec une parole du Père. Ça va définir la suite. Et Jésus, on l'a dit tout à l'heure, il y avait cette problématique de l'identité et de la parole. Il remet aussi en question la parole de Dieu. Et donc, même Satan utilise la parole de Dieu pour pouvoir essayer de nous faire croire qu'on est on n'est pas dans le bon. Alors ça, c'est le premier point, c'est donc cette identité qu'on a en lui. Deuxième chose auquel il va s'attaquer, c'est au verset 5. Le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Petite parenthèse, qui lui a donné toute cette puissance et cette autorité? Pardon? Au diable? Oui, mais qui lui a donné au diable? C'est pas le Seigneur. Hein. C'est qui? C'est nous. Hein. Nous, on avait reçu tout ça. Hein. On avait tout ça avec notre identité, on avait aussi tout ça. Mais on lui a refilé en lui obéissant. Donc comme il est devenu le maître, c'est lui qui a tout maintenant. Mais ici, il essaie de proposer tout ça à Jésus. Et pourquoi il fait ça? Quelle était la mission de Jésus? On l'a célébré il n'y a pas longtemps, je vous donne un indice. Quelle était sa mission? Sauver le monde, avoir la victoire, on l'a dit tout à l'heure, à la croix, pour faire quoi? Pour récupérer tout ça. Il est venu récupérer tout ça. Il a été jusqu'au séjour des morts, il est venu reprendre tout. Et le diable, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Lui donner un raccourci. Allez, je te refile tout. Hein, si tu fais ça et ça, je te refile tout. Mais il sait que s'il fait ça, en fait, il perd tout. Parce que tant qu'il ne résiste au diable, il est au-dessus du diable. Dès qu'il se prend en dessous du diable, il fait la même chose que l'homme. C'est ce que l'homme a fait au final. Donc il aurait perdu tout, et en plus, il aurait perdu son obéissance au Père et cette relation avec le Père. Et là, on voit de nouveau que Jésus va résister. Là aussi, jusqu'où moi-même, je suis conscient qu'en Christ, je récupère cette autorité qu'il a gagnée à la croix. Et jusqu'où je suis conscient de la mission dans laquelle lui m'appelle. Est-ce que moi, je dois aller à la croix? Non, ce n'était pas ma mission. Mais Jésus, c'était sa mission. Mais moi, ma mission aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est? Quelle est ma vérité à moi aujourd'hui sur terre? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et ça, c'est important aussi de le savoir. Parce que c'est ça qui devrait aussi définir ce qu'on fait. Ma raison d'être, ma raison de vivre, ce qui m'anime au fond de moi, ce pourquoi Dieu m'a créé. Et c'est très en mouvance dans notre société aujourd'hui, ça c'est intéressant. Dans toute la mouvance un peu du yoga et tout ça, il y a tous ces coachs, je ne sais pas si vous voyez un peu sur Internet, qui nous aident à trouver notre raison de vivre, notre chemin de vie. Et en fait, ils cherchent la vérité en eux-mêmes, pour essayer de comprendre qui ils sont. Mais sans se rendre compte qu'en fait, ils sont un peu dans le vrai, parce qu'ils cherchent en fait au fond d'eux ce que Dieu a placé. Ce qui leur manque juste, c'est de savoir que c'est Dieu qui l'y a mis. Mais si je suis vrai avec moi, je vais commencer à découvrir, mais en fait, quand j'aime bien faire ça, ou que je fais ça, ou quand je ressens ça, c'est parce que c'est moi tout simplement. Et Dieu m'a créé comme ça, et veut m'utiliser comme ça. Même ici, dans ce lieu, les musiciens, est-ce qu'ils sont à leur plein potentiel dans ce que Dieu veut qu'ils fassent? Parce que Dieu les a créés pour ça, pour être pleinement eux et apporter ce qu'ils sont eux et faire une différence. Sinon, on est dans l'uniformité. On fait tous pareil et on essaye tous de plus ou moins servir quelque chose de commun. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on soit pleinement qui on est, totalement, parce qu'il nous a créés pour ça. Il fait pas les choses à moitié, Dieu. Il fait tout parfaitement. Donc si tu es comme tu es, dans le meilleur de toi, et on l'a chanté même dans un chant, j'ai remarqué, de pouvoir donner le meilleur de ce que je suis. On l'a chanté. Donc faites attention à ce qu'on chante, parce qu'en fait, au final, on le chante, mais est-ce qu'on le vit vraiment? Est-ce qu'on est vraiment dans le plein? Voilà, tout ce que je suis, l'outil que je suis, est entre tes mains. Souvent, on se dénigre. De nouveau, parce qu'on ne connaît pas bien son identité, on se dit, oh, je suis mauvais, je suis pécheur, je suis ci, je suis là, je suis là. Non, moi, en tant que tel, Dieu m'a créé comme je suis. Et il sait l'outil que je suis. C'est pas l'outil le problème, c'est celui qui s'occupe de l'outil. Et celui qui s'occupe de l'outil, c'est moi en général. Et je le fais pas super bien parce que je suis pas Dieu. Et je le fais en fonction de mon histoire, en fonction de ce que je crois bon, en fonction de plein de choses. Mais en général, je m'en occupe assez mal. Et j'aime faire plein de choses à moi. Parce que je suis un mauvais patron, en fait. Donc je suis souvent très dur avec moi-même. Et l'enjeu, c'est quoi? C'est pas de remettre en question qui je suis, mais de remettre en question celui qui dirige ma vie. Donc, retrouver mon identité, savoir pourquoi je suis là et lui remettre l'autorité. Je suis à ton service, dans tout ce que je suis. Parce que sinon, je peux ne pas être à la bonne place. Je peux ne pas le servir là où lui voudrait. Et je ne suis pas aussi utile, parce que lui, c'est l'endroit, il sait comment il voulait le mieux, ce qu'il voulait de mieux pour moi. Et quand je trouve cet endroit-là, je m'épanouis. Parce que j'ai été créé pour ça. Et Jésus, de nouveau, savait où il devait aller et il savait ce qu'il attendait là-bas. Et parce qu'il savait où il allait, l'ennemi avait beau lui proposer d'autres alternatives, il pouvait les refuser. Conscient de son identité, conscient de la mission. Peu importe ce qui arrivait. Et même chose quand il va rencontrer les pharisiens qui voulaient le tuer, quand ses frères vont lui dire « Va à Jérusalem, va te montrer !» Il va dire « Non, non, c'est pas le temps. Vous, c'est toujours le temps, moi, c'est pas le temps. » Il va rester dans sa position, il sait. Il n'a pas besoin de se montrer. Jésus n'a pas besoin d'être visible, parce qu'il est conscient de qui il est dans l'invisible. Et ça, ça l'aide. Ça le tient dans sa vie. Il sait la vérité, et la vérité définit toute sa réalité. Alors que nous, souvent, c'est l'inverse. Notre vérité est notre réalité. Donc, si on est coincé, on se dit « La vie, c'est coincé. » Alors que ce n'est pas la vérité. Et c'est à ça qu'il faut revenir. Dernier point, dernière tentation. Le diable conduisait encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Et Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Quelle est la tentation ici? Sur quoi il le tente? Démontrer sa puissance. Donc, il sait que les anges du Père sont à sa disposition. Et le diable sait aussi. Il connaît les Écritures et il sait, il voit, il est dans le monde spirituel. Il sait très bien. Et il le propose de faire une démonstration de puissance, donc de se jeter. C'est comme l'idée de, si vous buvez du poison, vous n'aurez rien et que vous dites « je vais boire un petit verre de poison pour faire le malin ». C'est un peu la même ordre d'idée, quoi. Juste pour montrer. Mais là, Dieu, il n'est pas là. Dieu, il dit « si tu fais mon œuvre, moi, je serai là ». Mais pas si tu me tentes, ce n'est pas le but. On ne joue pas avec Dieu. Il dit juste que ma protection est là quand tu agis, quand tu es à ta place, quand tu es au bon endroit, tu es dans la mission, je suis là. Tu as les gardes du corps autour, tu as tout le monde qui est autour de moi. Et là, il va le tenter là-dedans de nouveau pour dire en fait « montre que le Père est là, montre que tu n'es pas tout seul, quoi. » Mais de nouveau, Jésus est conscient. En plus, il y a le ciel qui vient de s'ouvrir, il y a le Père qui parle, il y a l'Esprit qui vient de parler. Enfin, même, je vais dire, on serait à sa place, on aurait déjà vécu ça, on se dit déjà, bon, ben, on sait qu'il est là, quoi. Hein? Si on avait vu la moitié de ce qu'il a vécu, ça aiderait déjà un peu. Mais lui, en plus, il sait, quoi. Donc, il sait qui il est, il sait sa mission, et il sait aussi que le Père est là. Il sait toutes ces choses-là. Donc, de nouveau, il n'a rien besoin de prouver. Donc, sachant, le fait de savoir, d'être conscient de ça, lui permet de répondre au diable et de lui dire, écoute, tout ça, ça ne me sert à rien. Ça ne sert à rien. T'as beau parler, ça ne sert à rien. D'ailleurs, il reprend la parole en disant, tu ne tenteras pas Dieu, donc il remet à sa place. Et qu'est-ce qui se passe quand, après trois fois, Jésus remet le diable à sa place? Maintenant, à partir de là, le diable va partir. Et étant donné qu'il a mis le big boss de tous les démons à terre, on va dire, ou qu'en moins il s'en est débarrassé, qui peut lui résister? Qui peut lui résister? Personne. Et ça va être la suite. Jésus, revêtu de l'esprit, va aller voir les gens, et les démons, ils vont partir les uns après les autres, guérison. Et même avant qu'il fasse ça, il y avait déjà sa renommée qui se répandait, on l'a lu juste avant. Il était revêtu de puissance, et sa renommée se répandait, alors qu'il avait encore quasi rien fait. Même chose, il va rentrer dans le temple, il va lire un texte, Ésaïe 61, il va dire une parole, et là, direct, boum, séparation entre deux, ceux qui l'admirent et ceux qui disent « Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» À partir du moment, et là encore, juste avant, jusqu'au désert et tout ce qu'on a raconté aujourd'hui, c'était quelque chose encore qui était dans les coulisses. Et là, on voit l'importance de ce qui se passe dans les coulisses, dans l'invisible. Parce que de ce qui se passe dans l'invisible découle le visible. Si Jésus a pu faire tout ce qu'il a vécu là, cette conscience de tout ça, c'est parce que juste avant, dans l'invisible, au niveau de son baptême, au niveau de la tentation et de tout ce qu'il a vécu avant qu'on n'avait pas vu, il s'est passé des tas de choses. Et ça nous questionne sur notre vie invisible. Qu'est-ce qu'il en est de notre vie invisible? Notre vie de prière. Est-ce que quand je prie, le ciel s'ouvre et Dieu me parle clairement? Bam! Est-ce que je suis conscient de qui je suis en lui pleinement? De la mission qu'il attend de moi? Est-ce que je suis conscient que là autour de moi, si je suis là où il faut, les anges débarquent et je ne suis pas seul? Je suis conscient de ça ou pas? Parce que de cette conscience-là va dépendre le reste. Parce que si je ne suis pas conscient de ça, le danger, c'est que dès que l'ennemi débarque avec un doute, un mensonge, je suis embarqué dedans. Et il défausse tout le bazar, et moi je suis à terre et je ne sais plus ce qui se passe, je ne comprends plus rien. Et j'essaye de faire pour récupérer, et je suis pris quoi. Et souvent on est pris là-dedans, parce qu'on n'a pas cette conscience. Dès que je reviens à cette conscience, je reviens à Dieu, Dieu me ramène dans cette identité, Dieu me ramène dans la mission, Dieu me ramène dans cette idée, je suis avec toi. Regardez Moïse. Moïse a tenté par ses forces, puis il a dû partir, puis au final dans le désert, alors qu'il ne demandait rien, Dieu vient le chercher, il l'appelle clairement par son nom, il lui redonne son identité, il lui dit qu'il sera avec lui, et lui donne la mission. Et vous verrez, avec chaque homme de Dieu, c'est souvent comme ça. Dieu appelle, et c'est même souvent Dieu lui-même qui appelle, parce que nous on est dans notre petit truc en train d'essayer soit de faire des choses pour lui, soit on l'a oublié, l'un ou l'autre. Et Dieu vient chercher, Dieu ramène l'identité, Dieu redonne une mission et Dieu dit « Je serai avec toi ». Et dans cette conscience-là, il se passe de grandes choses. Il se passe de grandes choses. Et là, la victoire est devant nous. Et souvent, le problème avec la victoire, c'est pareil. Si je ne suis pas conscient de tout ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de victoire, en fait. Je doute même de la victoire. Est-ce que je vais vraiment avoir des victoires dans ma vie? Mais de nouveau, si je reviens à ce qui je suis, etc., je sais que la victoire fait partie de Dieu lui-même. Il est le Dieu du salut. Il se décrit comme ça. Il est le guerrier, le vaillant guerrier. Il est celui qui peut faire toute la différence. Et c'est important de le savoir. Pourquoi? Parce que de nouveau, il en sera fait selon votre foi. Donc si je n'y crois pas, si je crois qu'il ne se passe rien, il ne se passe rien. Donc la confiance que je mets dans une chose ou dans l'autre va définir. Si je me définis par rapport à ce qu'on me dit, par rapport à ma situation, par rapport à mon contexte, c'est ce qui va se passer. Je vais rester là-dedans toute ma vie. Et c'est pour ça l'importance de la parole et de la vérité qui vient me bousculer, me dire « ce n'est pas ça la vérité. Ta réalité n'est pas la vérité. Voici la vérité. » Et plus tu vas croire dans la vérité, plus elle va te libérer. Il y a un serviteur que j'aime beaucoup qui utilise cette image. Il dit « Dieu voit en nous des aigles qui voudraient voir prendre son envol. » Dans notre région, on voit de plus en plus de rapaces, c'est étonnant, je m'étonne à chaque fois, on les voit voler dans le ciel, c'est magnifique. Et souvent, il expliquait comme ça, souvent on se rend compte qu'on est un peu un aigle, parfois on a cette conscience, mais on est pris dans des cages, et on n'arrive pas à déployer les ailes et s'envoler. On est pris dans toutes ces choses que la religion met autour de nous, on n'arrive pas à vraiment se libérer, on est bloqué. Ou alors, dans l'autre sens, on croit qu'on est une poule, et donc on picore sur le sol et on fait pas grand-chose. Et ça, c'est souvent l'histoire ou ce qu'on a eu autour de nous qui nous a fait penser comme ça. C'est des mentalités qu'on a. Et Dieu y voit en nous un aigle. Il dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent les forces. Et ils prennent leur envol comme l'aigle. Et l'aigle, ce qu'il fait, c'est qu'à un moment de sa vie, il décolle, il va sur les hauts sommets. Et il se dépouille complètement, il arrache tout, il arrache ses poils, il se défait complètement, il casse même son bec. Et il arrache tout pour après être renouvelé complètement, un nouveau plumage, un nouveau bec plus acéré, des nouveaux crocs, et quand il débarque, il ne faut pas être sur son passage. Ça, c'est ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un. Et c'est ce qu'il veut faire avec chacun de nous. Et tout ça va dépendre de notre vie avec lui, de cet invisible, et de la place de l'invisible. Même chose, jusqu'où je suis conscient que, au-delà de ce qui se passe aujourd'hui, Dieu est là. Qui sait que Dieu est là en ce moment ? Vraiment, il est là. Il est heureux de visiter ses enfants. Il est heureux d'être là au milieu de nous. Ça lui fait plaisir. Ça aussi, si je crois que c'est un Dieu juge et que je ne veux pas trop qu'il soit là parce qu'il va encore voir ce que j'ai fait hier, je n'ai pas envie. Mais si je sais que c'est un Dieu aimant qui vient et qui a toute sa grâce et qui veut venir me rencontrer et qui sait ce que j'ai fait hier parce que je suis lié depuis des années à ce truc et qui veut m'en libérer, je vais avoir une autre approche. Je vais courir vers lui. Je lui dis, regarde, ça fait des années que c'est comme ça, viens, fais quelque chose, parce que moi, je n'en peux plus. Mais de nouveau, conscience. le fait que je sais qu'il peut faire quelque chose va aussi changer. Mais si je suis dans l'idée qu'il n'a jamais rien fait et il ne fera jamais rien, ben il ne fera jamais rien. Vu que c'est ce en quoi je crois. D'où l'importance de changer. Qu'est-ce qu'il dit dans la parole? Il veut changer de mentalité. Changer notre intelligence, transformer notre intelligence, Romains 12. Transformer tout ça. Ouvrir nos yeux. Paul prie aux Éphésiens pour qu'ils les éclairent, afin qu'ils réalisent l'espérance qui est en eux. Vous lirez Éphésiens 1. Vous lirez Éphésiens 1 avec tout l'héritage. En Christ, nous avons ce privilège d'aller auprès du Père. En Christ, nous sommes réconciliés. En Christ, vous lirez tous les en Christ. Ça, c'est l'héritage, c'est la position dans laquelle nous sommes. Et tout dépend de ça. Et c'est pour ça, il est dit, Paul dira même, c'est pourquoi je prie pour vous, sachant votre foi, sachant votre amour, pour que vraiment il éclaire vos yeux, il illumine les yeux de vos cœurs, pour que vous saisissiez l'invisible en fait. Et il priera encore plus loin, chapitre 3, il va reprier, il dit, je prie même pour toute famille. Il prie pourquoi? Pour qu'on soit conscient de l'amour qui est tellement grand. Imaginez un océan, c'est encore plus grand. Imaginez l'univers, car Dieu est amour. C'est tellement énorme. Et en plus, quand Paul prie, vous savez comment il termine en Éphésiens 3? Et je sachant que tu peux faire infiniment au-delà de ce que je viens de te demander. Ouh! Imaginez le niveau, quoi. Déjà, Paul, quand il prie, c'est déjà haut, mais alors il dit que Dieu peut faire encore plus. Quel niveau de prière? D'où ça vient tout ça, de nouveau? De l'intimité. De comment tu connais Dieu, de comment tu te connais en Dieu, et de comment tu sais ce que Dieu attend de toi, et qu'il est prêt à mettre tout à disposition pour toi. Il l'a fait pour tant d'hommes, il peut le faire pour n'importe qui. Afin que, non pas ma réalité aujourd'hui, là où j'en suis aujourd'hui, soit la vérité, mais que la vérité devienne ma réalité. Et c'est ça qui change tout. Est-ce que je suis prêt à ce que ça chamboule ma vie? Qu'au final, ça remet en question que j'ai peut-être pas toute la vérité. Je sais peut-être pas tout. Il y a peut-être quelque chose qui me dépasse et qui sait plus que moi. Je vous propose de terminer dans la prière. Et je ne veux pas juste avoir un beau message, mais je veux aussi me tenir à disposition le temps qui est là. Dieu met à cœur de plus en plus pour le moment de ne pas juste prêcher, mais aussi de prier et de montrer que Dieu peut agir. Et donc, si vraiment quelqu'un, ce message le touche, et qui veut vraiment prier pour que Dieu éclaire, simplement pour qu'il mette la lumière et pour que les choses s'éclairent, on peut le faire. Et même, n'hésitez pas à prier l'un pour l'autre. Hein. Enfin, il n'y a pas que moi, mais c'est... Voilà, je veux dire, je suis là, je me veux mettre à disposition et qu'on puisse vraiment prendre un temps de prière pour ceux qui voudraient, vraiment. Donc, je me tiendrai là après le culte ou après un moment. Mais vraiment, n'hésitez pas. Vraiment, si vous dites, c'est la tempête au fond de moi, une parole du Seigneur peut tout arrêter. Et ça, j'y crois. Je l'ai déjà vu. Donc, vraiment, n'hésitons pas. Et donc, voilà, prenons peut-être quelques instants dans le silence. Et s'il y en a l'un ou l'autre qui veut élever la voix, et puis je clôturerai. Seigneur, merci pour ta parole, en effet, qui nous redéfinit. Ta parole qui est la vérité, qui nous rend libres. Seigneur, aide-nous à faire la part des choses dans nos vies, à ce qui est du mensonge et de ce qui est vrai. Et c'est pour ça que nous avons ta parole, Seigneur. Pas juste la parole écrite, mais que tu nous as aussi donné ton esprit pour discerner, pour voir, pour comprendre, pour être éclairé. Seigneur, ma prière pour nous ce matin, Seigneur, et pour cette communauté aussi, Seigneur, c'est que même en tant que communauté, Seigneur, tu sais par où elle est passée, tu connais son histoire, tu sais les hauts, les bas, Seigneur. Là aussi, Seigneur, aide-la à se redéfinir dans sa vérité. Qui est-elle en tant que communauté? Que fait-elle ici? Quelle est sa mission pour cet endroit ici, à Jumet, à Charleroi? Seigneur, pourquoi elle est là? Quelle est sa raison d'être, Seigneur? Et pourquoi chaque personne est dans ce lieu, Seigneur? Qu'il y ait une meilleure connaissance les uns des autres. Parce qu'à travers la découverte de l'autre, je commence à comprendre la volonté de Dieu pour l'endroit, en fonction de mon travail, en fonction de là où je vais chercher mes enfants à l'école. Il y a quelque chose à faire, Seigneur. Parce que tu nous envoies pas n'importe, tu fais rien par hasard. Tu fais rien par hasard. Alors ma prière pour cette église, Seigneur, est aussi que là où l'ennemi a mis des mensonges, là où l'ennemi a enfermé, a bloqué dans des choses, Seigneur, et empêche de voir, que ta lumière vienne, Seigneur. Que toute pensée soit soumise à Christ, Seigneur. Et que ta lumière éclaire sur l'avenir, Seigneur, sur les rôles des uns et des autres, Seigneur. Que les choses se définissent non pas en fonction du lieu, pas en fonction de la tradition, ni en fonction de l'histoire, mais en fonction de qui est chacun. Car Seigneur, tu as amené ceux qui sont ici parce qu'ils sont précieux pour toi, ils ont une valeur et parce qu'ils sont l'Église. Et ils sont une pierre vivante de cette Église, de cette communauté, Seigneur. Et en cela, Seigneur, ils sont en train de construire un bâtiment, un temple pour ta gloire ici dans cet endroit, Seigneur. Je ne parle pas du lieu ni du bâtiment, je parle de cette ville, Seigneur, de cette commune, de cette entité dans laquelle ils sont, Seigneur. Appelé à être un témoignage que tu es vivant et amener d'autres à redécouvrir cette identité que chaque habitant a, car tu veux que tous soient sauvés. Tu veux que tous redécouvrent cette identité, que tous découvrent la raison d'être qui est au fond d'eux, que tous sachent que tu peux être avec eux, et que ta présence peut les entourer et peut transformer et chambouler leur vie, Seigneur. Alors augmente, Seigneur, la foi et la conscience de qui tu es et que ta paix, Seigneur, se manifeste puissamment dans chaque personne, dans chaque famille et dans chaque maison. Car, Seigneur, ta paix garde nos cœurs et nos esprits dans cette conscience de qui tu es et que ton amour continue d'inonder cet endroit, continue d'inonder chaque vie et que ton amour nous entoure en repartant d'ici. Et que la joie déborde, Seigneur, qu'on ait envie, Seigneur, tellement la joie et la passion est là, Seigneur, qu'on ait envie de parler de toi autour de nous et de dire, tu ne sais pas ce que tu loupes. J'ai envie de te parler d'une histoire merveilleuse qui m'est arrivée. Qu'on ne puisse pas avoir honte de témoigner, Seigneur, mais qu'on soit fier de témoigner de toi. Car l'Évangile, Seigneur, je n'ai pas à en avoir honte, c'est une puissance. Une puissance, et une puissance pas nucléaire, pas une puissance d'une petite bombe ou d'un petit pétard. Une puissance au niveau de Dieu. Qui a dit en une parole à créer tout l'univers, à créer des milliards de galaxies, de planètes et autres, dont on ne peut imaginer. Et ce même Dieu, à travers sa parole, a pris nos milliards de péchés sur lui pour nous rendre libres et nous ramener dans cette identité. Alors nous avons tout pour y aller. Alors aide-nous à aller et à repartir chez nous, conscients de qui nous sommes, conscients de ce qui se passe autour de nous et conscient de la mission et que nos vies de prière en soient transformées, qu'on puisse vraiment ouvrir le ciel, voir une percée dans ce lieu et que ta parole se répande de plus en plus car il est dit dans Ésaïe qu'elle est comme la pluie et qu'elle ne revient pas à toi sans effet. Merci pour ce que tu as fait ce matin, merci pour l'œuvre que tu as commencée dans les cœurs à travers la parole qui a été donnée et merci parce que tu l'accomplis parfaitement. Donc pour la gloire de ton nom, Amen.